Avec Pascal Paradou, du lundi au jeudi à 13h30 TU sur RFI.
RFI 7h à Paris, 6h en temps universel.
Julien Coquel-Rohem.
Et Nemo en piste pour le journal. Bonjour Nemo.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Jamais un président américain n'avait autant parlé lors d'un discours sur l'état de l'Union.
Plus d'une heure quarante devant les élus, Donald Trump, fidèle à lui-même, qui a balayé de nombreux sujets, mis en avant son bilan économique, critiqué l'opposition démocrate, mais aussi les juges de la Cour suprême. À nous de faire le bilan de ce discours dans un instant depuis Washington. Donald Trump qui a également dit un mot de l'Iran, alors qu'un quatrième jour consécutif de manifestations a eu lieu dans certaines universités. Cité avec parfois un goût bien connu de début de répression. Dans ce journal également, à la suite de la tournée internationale du colonel Michael Ranjanirine, le président de la refondation de Madagascar était à Paris alors que Friedrich Merz est arrivé ce matin à Pékin. Le chancelier allemand doit y rencontrer le président Xi Jinping. On prend la température à Berlin dans 10 minutes.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the President of the United States.
Voilà, c'est par des vivas et sous les USA, USA que Donald Trump a donc été accueilli devant le Congrès. Passage annuel obligatoire pour le président américain, visiblement pas une contrainte. Lui qui a battu le record de longueur pour un discours sur l'état de l'Union, plus d'une heure quarante pour vanter son bilan et attaquer l'opposition démocrate. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Envoyé spécial permanent de RFI à Washington. Vincent, Trump a fait du Trump et malgré son récent revers sur les droits de douane et sa popularité en berne, le président américain croit toujours en sa bonne étoile.
Oui, comme si de rien n'était, Donald Trump martèle qu'avec lui, les États-Unis sont plus riches, sont plus sûrs et sont toujours sur la voie d'un âge d'or hypothétique. Comment ça se concrétise? Eh bien, avec ces thèmes fétiches, nous avons sécurisé les frontières, nous avons augmenté la production de pétrole, la bourse n'a jamais été aussi haute, nous avons baissé les impôts et même si c'est faux, il va jusqu'à parler de retournement économique. Vous avez mentionné les droits de douane, Nemo, il en a abordé les contours, il a abordé sujet Donald Trump, sachant qu'il y avait dans la salle, à quelques mètres de lui, quatre juges de la Cour suprême. On se demandait si Donald Trump allait presque les insulter en direct, ces magistrats. Et bien finalement, il est resté assez sobre. Il a juste parlé d'une décision regrettable. Et il en a profité, comme on s'en doutait, pour annoncer de nouveaux droits de douane qui reposeront sur une autre base légale. Les droits de douane, ça reste pour Donald Trump la formule magique. Il a même suggéré qu'un jour, il rapporte tellement d'argent qu'on puisse abolir l'impôt sur le revenu aux États-Unis. À part ça, très peu d'annonces, si ce n'est le déclenchement de ce qu'il appelle une guerre contre la fraude, confiée au vice-président J.D. Vance. À ce stade, on ne sait pas de quoi il s'agit. Et en matière de politique étrangère, Nemo, pour finir, Donald Trump estime toujours qu'il a sauvé des milliers de vies en s'érigeant en faiseur de paix sur tous les continents.
Merci Vincent Souriau. Vous le disiez, le dossier international. Le président américain a également évoqué le brûlant dossier iranien lors de cette prise de parole devant le Congrès. Donald Trump qui assure à la veille de nouvelles négociations à Genève que sa préférence va à une solution par la diplomatie. Il accuse toutefois Téhéran de développer des missiles pouvant, selon lui, bientôt atteindre directement les États-Unis. Ils avaient été avertis de ne plus tenter à l'avenir de reconstituer leur programme d'armement, en particulier les armes nucléaires. Pourtant, ils continuent et poursuivent à l'heure actuelle leurs sinistres ambitions, a-t-il ajouter l'Iran, où de nouvelles manifestations ont eu lieu dans plusieurs universités. C'était le cas à Téhéran, mais aussi en province, la capitale où l'on retrouve notre correspondant, Siavosh Ghazi.
Pour la quatrième journée consécutive, des manifestations ont eu lieu dans au moins une dizaine d'universités à Téhéran, Mashhad ou encore Isfahan. À Téhéran, des étudiants hostiles et favorables au pouvoir se sont même affrontés, faisant plusieurs blessés. Des étudiants islamistes portaient des drapeaux iraniens, alors que certains étudiants contestataires ont lancé des slogans en faveur du fils de l'ancien monarque. D'autres étudiants, plutôt de gauche, ont lancé des slogans « Femme, vie, liberté » comme en 2022, lors du mouvement de contestation qui avait suivi la mort de Mahsa Amini, ou encore en faveur d'une république iranienne. Après ces affrontements, les autorités ont mis en garde les étudiants contre toute violence, en particulier après que des drapeaux iraniens aient été brûlés. Certains étudiants ont même reçu des SMS leur signifiant qu'ils ne pouvaient plus entrer à l'université et devaient d'abord se présenter auprès des services de sécurité de leur établissement. La justice a également menacé d'intervenir. Enfin, une des universités de Téhéran a annoncé la fermeture de l'établissement jusqu'à après les vacances du nouvel an iranien Nowruz, c'est-à-dire jusqu'au début avril. Siavosh Kiazi, Téhéran RFI.
À la une également, la Cour suprême israélienne saisie par 19 organisations humanitaires.
Afin de tenter de bloquer la décision prise par les autorités israéliennes qui ordonnent à 37 ONG la fin de leurs activités dans la bande de Gaza, en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est à partir du 1er mars, soit ce dimanche, ces organisations mettent en garde contre des conséquences catastrophiques pour les civils. À Ramallah, les précisions d'Alice Foussard.
Face à leur fermeture imminente, les organisations internationales humanitaires n'avait pas vraiment le choix. Il fallait tout tenter pour contester, gagner du temps, explique Yotam Ben Hillel. Il est avocat israélien, spécialisé dans les droits humains en Palestine depuis plus de 20 ans.
Nous exigeons donc l'annulation de cette demande visant à fournir tous les noms et coordonnées des employés.
Selon lui, un autre aspect problématique de la décision des autorités israéliennes concerne le fait qu'Israël ait décidé que ces ONG doivent cesser leurs activités également en Cisjordanie occupée.
Israël a agi ici sans aucune autorité, car selon les accords d'Oslo, toute la question de l'enregistrement des organisations est désormais du ressort de l'autorité palestinienne. Cela revient à une ingérence dans les prérogatives de l'autorité palestinienne. Alors nous contestons donc également cette exigence dans notre requête.
Yotam Ben Hillel le précise, cette pétition a été déposée dimanche. Les ONG ont également demandé au tribunal une ordonnance provisoire pour qu'elle puisse continuer à travailler et n'ait pas à quitter la Cisjordanie occupée. Mais est-ce que cette requête a des chances d'aboutir? Rien n'est moins certain, poursuit l'avocat.
Récemment, le procureur ne fait pas vraiment son travail et refuse automatiquement ce genre de demande. Et si c'est rejeté, cela voudra dire que les ONG doivent arrêter de travailler.
Et, ajoute-t-il, cela voudrait dire que la situation à Gaza, mais aussi en Cisjordanie, pourrait être encore plus catastrophique.
Alice Froussard est dans le prochain journal dans une heure. Reportage dans la colonie de Romesh, située dans le nord des territoires palestiniens occupés, qui avaient été évacués en 2005 en même temps que Gaza, après que lundi une petite vingtaine de pays a condamné le contrôle illégal d'Israël sur la Cisjordanie occupée. Frédéric Misselin s'est rendu sur place.
Le président de la refondation de Madagascar poursuit ses visites à l'étranger.
Le colonel Mikhail Ranjanirine, quelques jours seulement après être passé par la Russie, a été reçu ce mardi à Paris par Emmanuel Macron, un déjeuner de travail à l'Élysée pour tenter de normaliser une relation bilatérale mise à mal par l'exfiltration de l'ancien président Andras Zoel il y a quelques mois. La rencontre avec le président français était scrutée de près à Antananarivo, où l'on retrouve Aurélie Couman.
Un déjeuner de travail au format discret, mais le bilan politique est là. Paris et Antananarivo ont scellé ce mardi un nouveau cadre de partenariat pour les 24 prochains mois, selon un communiqué de l'Élysée. Pour le colonel Mikhail Ranjanirine, l'enjeu était d'acter sa stratégie de diversification. Madagascar ne pratique aucune discrimination, a-t-il martelé, juste avant sa visite en France. Il avait été reçu par Vladimir Poutine à Moscou vendredi dernier. Mais pour normaliser la relation avec la France, il fallait d'abord solder le passif de l'exfiltration de l'ex-président Andras Zoel en octobre dernier suite aux manifestations de la Gen Z, vécue comme une ingérence par la jeunesse malgache. Un froid diplomatique dont la Russie a profité. Hier encore, deux gros porteurs russes livraient 60 tonnes de vivres à Antananarivo, une des manifestations de l'accord stratégique signé au Kremlin. Face à cette dynamique, la France réplique sur le terrain économique. Une rencontre qui s'est tenue dans la foulée entre le patronat malgache présent à Paris et le MEDEF, le patronat français, a abouti sur des accords de financement pour 29 projets d'une valeur située entre 1 et 2 milliards d'euros, notamment dans des domaines dits prioritaires, comme le tourisme, la formation ou encore l'énergie. Aurélie Couman, Antananarivo. RFI.
L'actualité du continent africain en bref. Une perte lourde pour la FCM-23 dans l'est de la République démocratique du Congo. Le porte-parole militaire du groupe Wilingoma a été tué tôt hier mardi aux alentours de la cité de Rubaya, territoire de Masisi dans la province du Nord Kivu. Son portrait signé Passion Ligodi a retrouvé à la une de notre site internet. Lui sera finalement jugé pour viol en France. Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain et des Lions de l'Atlas marocain, accusé par une jeune femme de l'avoir agressé
agressé en février 2023. Le joueur dit attendre avec calme ce procès qui permettra, selon lui, à la vérité d'éclater publiquement. Lui qui pourrait être sur la pelouse du Parc des Princes ce soir pour la réception de l'AS Monaco en barrage retour d'accession au 8e de finale de la Ligue des Champions.
Friedrich Merz plaide pour une coopération juste avec la Chine.
Juste, c'est le terme employé par le chancelier allemand à son arrivée à Pékin. Il y est en visite pour la première fois depuis sa prise de fonction en mai dernier, à la tête d'une forte délégation de chefs d'entreprise. Une visite tardive, lui qui avait d'abord symboliquement choisi de se rendre en Inde. Friedrich Merz, par ailleurs, qui adopte un ton plus dur à l'égard de Pékin que ses prédécesseurs, notamment Angela Merkel. RFI Berlin, Pascal Thibault.
La Chine a longtemps été un Eldorado pour les entreprises allemandes. Elles y exportaient beaucoup des produits finis, comme des voitures, mais aussi des machines-outils made in Germany et d'autres biens d'équipement dont la Chine avait besoin pour assouvir son développement impressionnant. Les bénéfices de Volkswagen sur place ont ainsi longtemps subventionné la maison mère. Ces temps bénis appartiennent au passé. Les Chinois produisent désormais des produits qu'ils importaient autrefois. L'industrie automobile germanique souffre et les difficultés du commerce avec les États-Unis conduisent Pékin à inonder l'Europe de ses produits. Résultat, un déficit commercial qui se creuse considérablement entre l'Allemagne et son principal partenaire, avec 90 milliards d'euros l'an dernier, soit une hausse de moitié par rapport à 2024. Des fédérations industrielles allemandes représentant des entreprises de taille moyenne plaident pour une plus grande fermeté à l'égard de la Chine, notamment avec une meilleure protection du marché européen. Friedrich Merz a réclamé avant de s'envoler une concurrence loyale, mais les grands groupes qui accompagnent le chancelier sont nombreux et conscients de l'importance de ce marché alors que l'économie allemande reste poussive. Pascal Thibault, Berlin RFI.
Et puis Nemo, une sortie cinéma pour refermer cette édition.
Oui, en 1949, George Orwell publiait 1984, son testament littéraire et politique. Et 77 ans après, le cinéaste haïtien Raoul Peck lui consacre un documentaire saisissant. Ça s'appelle Orwell 2 plus 2 égale 5. Et c'est en salle ce mercredi en France. Elisabeth Le Quéré.
Quand je m'assieds pour écrire un livre, je l'écris à cause d'un mensonge que je veux dénoncer.
C'est le portrait d'un homme qui avait tout prévu et que personne n'a vraiment écouté. Il y a 75 ans, George Orwell inventait Big Brother et la novlangue, cet ancêtre des fake news. Mais Orwell était aussi un démocrate fervent, comme en témoigne son engagement pendant la guerre d'Espagne, et un critique lucide du colonialisme.
Démocratie, liberté.
Raoul Peck.
Justice.
J'ai découvert un Orwell, en fait, qui est encore plus proche de moi que je le pensais. C'est-à-dire, c'est l'Orwell tiers-mondiste. Et donc, quelque part, je retrouve un frère d'armes. Orwell est le parfait penseur qui a mis sur la table la matrice même d'analyse de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui.
Le concept même de vérité objective est en train de disparaître.
Car à l'heure du complotisme de masse et des algorithmes, George Orwell n'est plus un auteur classique, c'est un manuel de survie. Raoul Peck l'a compris et son documentaire le dit sans détour, avec une mise en scène volontairement agressive où des slogans orwelliens envahissent l'écran, projetés sur des centres commerciaux, des façades d'immeubles et des foules. L'effet est immédiat. Ce monde dystopique, c'est le nôtre aujourd'hui.
Elisabeth Le Quéré, notez que Raoul Peck est notre invité culture ce matin, lui qui est au micro de Sophie Dorlotin.
Nemo en piste pour le journal, merci beaucoup, à tout à l'heure. Il est 6h13 en temps universel et tout de suite sur RFI, c'est le journal des sports. Avec vous, Olivier Pron, du football au programme, bien sûr, ce matin, avec les barrages retour de la Ligue des Champions en Europe.
Ah, c'est le titre du jour, hein. 4 qualifiés pour les 8e de finale déjà. Et dans ces 4-là, il y en a un qui a fait l'exploit. Bodø/Glimt, le club norvégien pour la première fois de son histoire en phase finale de la Champions. Et bim, elle est là, la horde jaune qui sort le vice-champion en titre, l'Inter Milan, le battant deux fois chez soi et chez lui. Après déjà des succès sur Manchester City, puis l'Atlético Madrid en poule, chapeau les Norvégiens. L'Atlético Madrid, Newcastle et le Bayer Leverkusen franchissent également ce barrage.
Quatre autres tickets à prendre ce mercredi soir, Olivier.
17h45, universel. L'Atalanta Bergame reçoit Dortmund après une défaite 2-0 dans la Ruhr. 20h, TU, PSG, Monaco. 100% Ligue 1. Avantage aux Parisiens, tenant du titre. Vainqueur 3-2 du match aller la semaine dernière, après avoir été rapidement mené 2-0. Une réponse qui montre la capacité de réaction l'ambition du champion de France, même si l'entraîneur Luis Enrique aimerait voir son équipe plus dominante dans la continuité.
Normalement, quand il y a des actions pendant les premières 20 minutes et tu perds 10-0 à l'extérieur, normalement, ça a fini de manière catastrophique. Normalement. Mais on a montré l'année dernière, il y a des ans, et cette année, que nous avons encore cette capacité à surmonter n'importe la difficulté. Et c'est que pour nous, c'est important de savoir gérer la manière que nous jouons et on cherche à améliorer les façons offensives et défensives parce que je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Ce que nous voulons, c'est gagner cette match et mériter à gagner les matchs.
Voilà pour PSG Monaco, Olivier, les deux autres matchs.
Ouais, la Juventus Turin affronte Galatasaray avec 3 buts de retard, 5-2 à l'aller à Istanbul pour les Turcs. Enfin, le Real Madrid accueille Benfica après avoir gagné le match aller 1-0 à Lisbonne. Une rencontre marquée par l'incident présumé raciste entre Vinicius et Gianluca Prestiani, suspendu provisoirement par l'UEFA. L'attaquant lisboète sera absent ce soir, tout comme José Mourinho qui, énervé, avait écopé d'un carton rouge la semaine dernière. Le Special One ne pourra donc diriger ses troupes depuis le banc. Un handicap que le Benfica Lisbonne saura gérer, comme l'a confié l'entraîneur adjoint João Tralerou. C'est ce qu'il a confié en tout cas à Eric Mamrut.
La première chose que l'équipe perd, c'est son leader. En revanche, ce que nous ne perdons pas, c'est tout ce que M. José Mourinho a déjà dit dans le passé. Évidemment, un leader est toujours important, sa présence compte. Mais il a aussi dit que lorsqu'un joueur manque, malgré son importance, un autre le remplace et donne le maximum. Donc, même si José Mourinho ne peut pas être dans la zone technique, il sera avec nous. Nous savons ce que nous avons à faire et toutes les directives qu'il aura définies. Et nous les respectons.
João Tralau, comme on doit dire a priori comme ça en portugais.
Je vous fais confiance.
Soirée spéciale en tout cas sur RFI, ça, peu importe l'accent, dès 19h50 sur les ondes et sur la chaîne YouTube de la Radio du Monde.
C'est bien noté, merci Olivier Pron. Et bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Le Mexique vient de connaître une nouvelle flambée de violence spectaculaire après la mort du chef de cartel El Mencho. Routes bloquées, écoles fermées, villes paralysées, les autorités appellent au calme. Et dans Aujourd'hui l'économie, on parle ce matin de ce que cet événement nous rappelle. Les cartels mexicains ne sont pas seulement un sujet sécuritaire, ils sont aussi des acteurs économiques majeurs dans le pays.
Et comme souvent, on va commencer par quelques chiffres. Alors, ils sont forcément approximatifs puisque l'on parle d'activités illégales. Mais selon les estimations relayées par plusieurs économistes et analystes du secteur, le seul trafic de drogue au Mexique génère entre 20 et 40 milliards de dollars par an. Mais en réalité, ces cartels contrôlent une vingtaine de secteurs criminels. On peut noter par exemple les jeux clandestins, la prostitution, la contrefaçon ou encore le trafic d'armes. En fait, si on cumule toutes ces activités, le crime organisé devient le premier secteur économique du Mexique devant le pétrole, le tourisme et même les transferts d'argent envoyés par les expatriés depuis les États-Unis.
Autrement dit, sans figurer dans les statistiques officielles, les cartels pèsent plus lourd que les piliers traditionnels de l'économie nationale.
Exactement, et cette tendance est ancrée dans l'économie du pays. Dès le début du XXe siècle, le Mexique exportait déjà de l'opium et du pavot. Pendant des décennies, ces activités ont été tolérées, voire intégrées de manière tacite au fonctionnement économique. Et ce système a pris une telle ampleur que dans certaines régions, les cartels remplacent quasiment l'État. Ils financent, ils arbitrent, ils punissent, ils font travailler et ils protègent. Mais les autorités ont déclaré la guerre à cet écosystème et cette lutte contre les cartels a un coût économique majeur pour le pays. Par exemple, les entreprises mexicaines doivent maintenant intégrer dans leur budget ce qu'on appelle un coût cartel, qu'importe leur taille d'ailleurs de ces entreprises. Selon les estimations, entre 5 et 10% du PIB mexicain serait englouti dans la sécurité, les extorsions et la protection.
Et cet argent, évidemment, n'est pas investi dans l'activité légale.
Tout à fait, hein. Et les petits commerçants sont parmi les premières victimes. Les grandes entreprises, elles, négocient parfois directement avec les groupes criminels pour sécuriser leurs employés et leurs marchandises. Cette économie sous contrainte freine les investissements étrangers et en bout de chaîne renforce la dépendance à cette contre-économie violente. La mort récente d'El Mencho, chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération, illustre parfaitement ce phénomène. En quelques heures, 20 États mexicains ont été paralysés avec des routes bloquées, des voitures incendiées, bouchées, les transports interrompus ou encore les écoles fermées. Le trafic aérien, lui, a été perturbé. Des dizaines de vols ont été annulés. Et cela affecte évidemment directement le tourisme et l'image du pays.
Mais Stéphane, le Mexique peut-il réellement se passer de cet argent criminel ?
Alors c'est la grande question en effet, hein, car à court terme, frapper les cartels, ça signifie une perte d'emplois illégaux, mais des emplois quand même, une baisse de liquidité dans certaines régions et la déstabilisation d'économie locale tout entière. Mais si on regarde avec une vision de long terme, évidemment, le narcotrafic agit comme un cancer économique et social, car la difficulté, elle est là. Aujourd'hui, plus l'État combat les cartels, plus la violence augmente, et plus la violence augmente, plus l'économie illégale recule, et plus l'économie illégale recule, plus les populations deviennent dépendantes des cartels. En fait, c'est un cercle vicieux et la corruption dans pratiquement toutes les strates du pouvoir complique encore plus ce changement de système.
Stéphane Genest, merci beaucoup. Il est 7h20 à Paris, notre grand invité international avec vous, Clotilde Dumay. Un gynécologue obstétricien spécialiste de la médecine de la reproduction, consultant à l'hôpital Foch avec vous ce matin. Il était signataire en 1973 du manifeste des 331 médecins ayant déjà pratiqué un avortement en France. C'était une époque où c'était un délit.
Bonjour professeur René Friedman.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur RFI. La Commission européenne doit se prononcer aujourd'hui, peut-être demain, sur l'initiative du mouvement My Voice, My Choice, Ma Voix, Mon Choix. C'est une initiative citoyenne qui a recueilli plus d'un million de signatures pour garantir un droit à l'avortement sûr et accessible en Europe. Le Parlement européen s'est d'ailleurs déjà prononcé en faveur de cette initiative. L'idée, ce serait de permettre à des femmes qui ont difficilement accès à l'IVG dans leur pays, de se rendre dans un autre État membre qui est plus favorable en créant peut-être un fonds pour prendre en charge les frais liés à cette démarche. Est-ce qu'il est effectivement nécessaire d'agir, René Friedman ? Est-ce que l'accès à l'avortement est en danger en Europe ? Est-ce que ce droit est encore trop peu protégé ?
Je crois que vous avez tout résumé. Oui, il est trop peu protégé. C'est-à-dire que, vous voyez bien, il y a des pays sur lesquels c'est une véritable difficulté pour les femmes, pour les couples, d'avoir un avis équilibré et une prise en charge correcte si cela s'impose. Et même en France, nous avons des zones qui sont d'accès fragile, des zones blanches, enfin, qui s'apparentent un peu aux déserts médicaux. Alors, je trouve, moi, que l'exemple qui est intéressant, c'est celui de l'Irlande, qui était opposé à cette liberté fondamentale de la femme et qui, par un référendum, a remis les choses en place. Et ce serait plutôt au niveau européen que de proposer et de lutter pour qu'il y ait des référendums, parce que je crois que la volonté populaire, elle est claire. Il faut qu'il y ait une prise en charge qui soit facile d'accès pour toutes les femmes.
Vous pensez que l'opinion publique, effectivement, est en faveur d'un droit à l'avortement ?
Je pense que oui, je pense qu'il est majoritaire. Je pense qu'il y a des discussions, que c'est pas si simple, c'est pas toujours si simple, il faut pas non plus faire une image d'Épinal, mais en tous les cas, c'est une proposition qu'il faut ouvrir partout. L'expérience que nous avons en France depuis, vous citiez 73, ça ne nous rajeunit pas. Mais ça existe. C'est que nous avons fait des pas en avant importants, mais successifs, vers la gratuité, la prise en charge, le développement de la prise médicamenteuse qui évite quand même les blessures, les complications pour la plupart. Mais il reste encore des problèmes. Il y a près de 5000 femmes qui vont à l'étranger, même en France, et il y a des difficultés pour atteindre les médecins qui vont vouloir la prise en charge. Il y a des zones qui sont sous-médicalisées. Or, la médicalisation, elle est faite pour quoi ? Elle est faite pour éviter les complications que nous avons connues au cours des avortements clandestins. Donc c'est cette attitude-là qu'il faut... C'est que dans tous les pays européens, il y ait une expression populaire. Et je suis persuadé qu'elle ira vers une meilleure prise en charge.
Sur cette initiative My Voice, My Choice, justement, est-ce qu'elle vous semble pertinente ? Parce que, je l'expliquais, l'idée, ça serait peut-être de créer un fonds commun auquel les États volontaires pourraient participer pour aider des femmes qui sont en difficulté pour avorter à aller dans un autre pays plus favorable. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Elle pointe une situation qui est regrettable, qui n'est pas correcte. Je pense, moi, qu'il faut que chaque pays, et l'Europe en général, impose cette prise en charge médicale, car c'est une prise en charge médicale pour éviter des complications.
Donc c'est à l'Europe le faire ?
Ben, c'est à chaque pays, qu'il soit européen ou pas européen, d'ailleurs, parce que le problème se pose partout. Mais ce va-et-vient me rappelle un peu la période du début où les femmes allaient en Angleterre ou allaient en Belgique. Elle pose aussi des problèmes financiers qui seront plus difficiles à résoudre dans la rapidité. Je vous rappelle qu'en France, la prise en charge est gratuite, quel que soit le secteur, qu'il soit privé ou public. Et cette chose-là n'est pas toujours identique dans chaque pays. Donc ça remue un peu la question, ça pointe, et c'est ce que vous faites ce matin. La solution, c'est que chaque pays, et l'Europe en tout entière, offre sur place une prise en charge correcte.
On pourrait imaginer effectivement un cadre légal européen, par exemple, minimum. Je rappelle, selon le mouvement My Voice, My Choice, 20 millions de personnes qui n'auraient pas accès en Europe à l'avortement dans des conditions surillégales. Donc voilà, l'Europe devrait au moins, on va dire, mettre en place un cadre minimal.
Oui, enfin, moi je suis quand même frappé par le fait qu'il y a 250 en France. Vous me parlez de l'Europe, vous avez raison. Je parle quand même qu'en France, il y a 250 000 avortements qui sont réalisés chaque année. C'est-à-dire qu'un quart des femmes enceintes, au cours d'une année, ne vont pas poursuivre leur grossesse. Et ça pointe l'accent sur la prévention. Quelle prévention on fait en termes d'information ? Quelle prévention on fait en termes de contraception, en termes de discussion de ces problèmes sans rejeter toutes les interrogations qui existent. C'est cette avancée-là qui me semble très importante sur le fond.
Oui, ce que vous dites, René Friedman, c'est qu'en fait, au-delà de l'IVG, il faudrait peut-être que l'Europe en fait, propose une sorte de plan beaucoup plus large sur tous les enjeux liés à la reproduction, à la contraception, etc.
Exactement. C'est-à-dire que je pense que ce qui est fait là permet de pointer le problème, mais ne permet pas tout à fait de résoudre. C'est pas avec les déplacements à l'étranger qu'on a connu nous-mêmes. Encore une fois, on accompagnait des femmes qui allaient en Angleterre, qui allaient en Belgique. C'est pas la panacée. C'est peut-être une solution de sauvetage pour certaines femmes, mais c'est pas l'objectif. C'est temporaire, c'est transitoire. Il faut que la société intègre cette réalité. Encore une fois, c'est une réalité qui est intime, qui mérite beaucoup de précautions et beaucoup de discussions. Il ne faut pas imposer d'un côté ou refuser de l'autre.
Vous preniez le cas de la France, René Friedman, effectivement, premier pays au monde à inscrire le droit à l'IVG, la liberté de recourir à l'IVG dans la Constitution. Est-ce que ça, c'est une avancée ? Est-ce que concrètement, c'est utile ? Et est-ce que, typiquement, au niveau européen, on pourrait copier ça et inscrire peut-être le droit à l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE ?
Oui, mais si vous voulez, bien sûr que ça serait une avancée pour tout le monde, mais encore une fois, ce qui compte, c'est la pratique, c'est-à-dire de mettre en place des systèmes où il n'y a pas de déserts médicaux, où il y a une prise en charge qui ne soit pas coercitive. Et où
donc il faut de l'argent.
Il faut de l'argent et changer les mentalités. Et pour changer les mentalités, je pense que le référendum dans chaque pays sur ces points-là serait un bon agitateur d'idées.
On voit aussi au Parlement européen que ce sujet crispe de plus en plus les débats entre la droite, une partie conservatrice de la droite, et puis la gauche. Est-ce que c'est inquiétant, justement ? On est loin des référendums pour le moment.
Oui, on est très loin des référendums, de l'expression populaire, c'est bien dommageable. Sur ce thème-là, en tous les cas, qui est un thème qui touche tout le monde à un moment donné de sa vie et qui est très, très intime. Mais je pense qu'il y a, il y en a plusieurs des problèmes qui nous affolent un peu actuellement dans les débats européens. Donc il faut prendre point par point. Et pour parler de celui-là qui est votre thème aujourd'hui, je pense qu'il faut avoir le courage d'en faire une proposition politique et pratique, et je dirais éviter les déserts médicaux, les exploitations, le coût aussi. N'oublions pas qu'il y a beaucoup d'endroits où il y a une exploitation financière de la femme.
On va voir, effectivement, le coût, on a bien compris. Merci beaucoup René Friedman d'avoir été avec nous sur RFI.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions dans Priorité Santé sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
le rôle des dents, comprendre et accompagner les besoins de l'autre.
Demain,
la tuberculose, une maladie infectieuse sous-diagnostiquée.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à